a prêché sur Laïcou, qui est prêtre de l'église orthodoxe roumaine. Il est recteur de l'église orthodoxe de Saint-Nicolas à Bruxelles. Moi, je le connais personnellement parce que il s'entend très bien avec ma femme. En fait, ce qui s'est passé la première... Non, c'est pas comme ça que je t'ai fait. Je l'ai invité chez moi pour toute autre chose, pour parler, je pense, au sujet de Pax Christi. Il entre chez nous, nous avons sur le mur, en montant l'escalier, toute une série d'icônes. Et je pense qu'il a passé une demi-heure à monter l'escalier. Le repas est devenu froid. Il n'a fait rien d'autre que de parler icône toute la soirée. Bon, résultat, c'est que quelques mois plus tard, ils ont décidé, je pense 4 semaines avant Pâques, d'ouvrir la grande église pour Pâques.
Non, les jours de Pâques, les jours de Pâques, on a ouvert l'église. Et 4 jours avant la Pâques, je posais la question à Irina, est-ce que tu peux m'imaginer un iconostase qui peut être réalisé en 4 jours. Et Rina, elle a dit, en connaissant votre paroisse, oui.
C'était super, c'était vraiment très bon souvenir. Père Patizio a été, dans le temps, chercher des relations avec les institutions européennes pour son église. Et c'est pour cette raison que je lui ai demandé de nous parler de ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'orthodoxie et les valeurs promulguées par les institutions européennes. Ben, vous connaissez toutes ces valeurs qu'on entend à longue journée. Et moi, je suis traducteur, ce qui fait que souvent je dois traduire tous ces textes-là, et quand on traduit, on pense quelquefois au moins. Pas souvent, ça passe comme ça. Et non, mais vraiment, ces valeurs, est-ce que ce sont des valeurs chrétiennes? Comment il faut s'y mettre? Comment il faut s'y prendre? Alors, c'est pour ça que j'ai demandé au Père Patrizio de nous élucider.
Donc, voilà. Tu me mets maintenant sur notre piste. Merci à tous pour cette occasion d'être devant vous. Après un exposé comme celui qu'on vient d'écouter, c'est compliqué. Moi, c'est la deuxième conférence. Après un festin comme ça, moi, je suis avec le digestif. D'habitude, le digestif est offert par la maison. Donc, on ne le juge pas trop. Il est comme il est. S'il est gratuit, ça va. Donc, je ne suis pas de la maison. Oui, ça, j'ai une expérience avec des digestifs qui n'étaient pas de bonne qualité, donc ça pouvait passer parce que c'était gratuit. Mais bon, mon digestif, j'espère qu'il va être quelque chose qui va donner envie d'aller plus loin, de déguster aussi d'autres délicatesses de cette expérience spirituelle, de vivre ensemble, de vivre dans une Europe qui n'est pas si facile qu'on pensait avant d'être dans l'Europe, mais pas non plus si compliqué que les autres veulent la comprendre. Donc, la conférence de ce jour, ces deux jours de conférence ont été mis sur le titre de l'orthodoxie entre passé et l'avenir. Le passé nous renvoie toujours à la tradition, à l'histoire, aux expériences, aux lieux de mémoire. Et l'avenir à l'espoir. Entre la mémoire et l'espoir, il y a la réalité, quelquefois raide, quelquefois amère. Mais ce qui est important pour nous les chrétiens, c'est que nous avons la conscience que chacun va œuvrer son salut là où Dieu l'a mis. Donc le monde d'aujourd'hui, comme il est, avec les difficultés comme elles sont, c'est le meilleur temps pour moi et pour vous pour trouver votre salut et pour trouver mon salut. Donc ce n'est pas la peine de pleurer en disant que le monde est mauvais, que la société et compliquée, que les valeurs que cette société nous inculque ne sont pas les bonnes. C'est avec ce cuisine que Dieu a décidé de œuvrer notre salut. Si on rejette ce que le monde met devant nous aujourd'hui et ici, on rejette ce que Dieu nous a mis comme chemin de salut. Donc, l'Europe et les réalités qui nous entourent, les réalités d'une société qui nous entoure, sont aussi notre chemin de salut. L'Église vit dans ce monde. Elle ne peut pas éviter d'être touchée par les réalités de la société. Nous disons dans la théologie orthodoxe que l'Église est une extension dans l'histoire de la présence du Christ. Et comme en Christ, on a la nature humaine et la nature divine dans un seul hypostase, et qu'elles ne sont ni séparées, ni mélangées, ni séparées, ni... je ne sais pas comment traduire en français la définition dogmatique du Calcédoine. Mais donc, il n'y a ni de séparation, ni de mélange, ni de distinction raide, ni de confusion. C'est pareil dans la vie de l'Église. La dimension institutionnelle avec la dimension eschatologique sont de même dans une unité d'hypostase. L'Église est à la fois institution et mystère. Et par son côté institutionnel, elle touche les réalités de ce monde. Et malheureusement, pendant des siècles, l'Église est tombée dans un grand piège. Elle pouvait penser que le but de sa présence dans ce monde est de transformer le monde dans une majorité chrétienne. Mais Christophe Yannaras dit que la vocation de l'Église n'est pas d'être majoritaire, mais d'être le levain qui fait lever la pâte. Transmettre à la société ce qu'elle a de vif, sa vie, sa force intérieure. Il y a deux possibilités avec le levain. Ou il est bon, et ça fait lever la pâte, ou il a le temps de valabilité expiré, il rend la pâte aigre. Malheureusement, quand nous voyons la société aigre, la société acide, qui refuse le christianisme, qui le met à part, on doit simplement se poser la question de quelle qualité est notre levain. Donc, quand on regarde la situation dans laquelle nous vivons dans ce monde, on doit être très humble et ne pas porter de jugements trop durs sur la société sans voir avec beaucoup d'humilité notre partie de responsabilité. Donc, la société d'aujourd'hui nous regarde avec des yeux institutionnels. On a tellement aimé la concurrence institutionnelle, on a tellement aimé d'être mis au même niveau que les partenaires sociaux, que les partenaires politiques, qu'on est devenu trop institutionnel. Et là où il y a trop d'institutions, l'esprit faiblit. Donc, notre souci dans ce monde, comme il est, doit être de rester vigilant, d'avoir la conscience de notre propre identité et de garder la sensibilité pour les douleurs de ce monde. Il y a une maladie génétique très grave qui s'appelle algoataraxie, qui se manifeste par un manque de douleur. Celui qui est malade de cette maladie génétique ne sent pas la douleur. Et le fait de ne pas sentir la douleur le laisse faire des excès. Et les gens touchés par cette maladie meurent très tôt par des infections énormes. Ils se cassent les ligaments, les infections à dans tous les côtés du corps. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, n'auraient pas la possibilité de se défendre, mais parce qu'en ne sentant pas les douleurs, les excès sont très proches. Donc, et souvent, les excès marquent leur vie. Donc, pour nous, Église dans ce monde, il faut être préoccupé de garder cette conscience, cette humilité, et de ne pas pleurer parce que c'est dur, parce qu'il y a la douleur dans la société, mais garder ces signaux d'alarme que la douleur, la conscience nous donne, justement, pour faire de notre côté, là où nous sommes, et comment nous sommes, ce qu'on peut nous de mieux. Et le reste est à la charge de Dieu. Un des pères très chers à mon cœur dit qu'une des problèmes de la société d'aujourd'hui, c'est que on a oublié que les choses que Dieu s'occupe que des choses impossibles. Dieu s'occupe que des choses impossibles. Les choses possibles sont à nous. Donc, si nous témoignons dans une société comme la nôtre, de tout notre cœur, avec toute la fraîcheur de notre enthousiasme et de notre vie chrétienne, laissez Dieu faire le reste et soyez confiants. Il va les faire comme il faut. Il ne fait pas les choses à moitié. Au moins, ces choses sont claires. Donc, il m'a été demandé de parler sur l'orthodoxie devant les valeurs promulguées par les institutions européennes. Si on est attentif au titre, déjà, il y a quelques pièges, et moi je suis tombé, mais conscient, et par volonté, on peut dire. Orthodoxie, surtout dans un monde où on parle de orthodoxie juive, orthodoxie musulmane, orthodoxie politique. L'orthodoxie, ça devrait être le fondement de ce qu'est l'Église orthodoxe. Donc, non pas l'orthodoxie dans le sens des églises orthodoxes, parce qu'on a des termes. On a les églises orthodoxes, on a l'église locale, on a l'église orthodoxe au singulier, les églises au pluriel. Donc, l'orthodoxie, ça voudrait dire le fondement, les valeurs de l'église orthodoxe. Et de l'autre côté, les valeurs promulguées par l'Union européenne. Donc, comment parler de l'orthodoxie sans parler de l'Église orthodoxe et des valeurs promulguées sans parler des valeurs générales, en général, de l'Union européenne. Donc, moi, je me fais pas trop de soucis. Je veux dépasser un peu les limites de ces frontières du titre de ma conférence. Je veux essayer d'avancer selon ma propre conscience et mon propre rythme, comme je suis, comment je suis. On essaie de mettre un peu de sel et de poivre là-dessus pour ne pas s'endormir. Et je pense qu'on peut y aller. Donc, quand on parle de l'orthodoxie, donc on parle des valeurs de l'Église orthodoxe. Quand on parle des valeurs de l'Union européenne promulguées, donc on parle des documents officiels, des valeurs qui ont été acceptées, promulguées, introduit dans les systèmes législatifs de l'Union européenne. Même s'il y a une multitude de textes qu'on pourrait analyser, moi je me suis décidé de me restreindre sur les traités de l'Union européenne. Vous savez qu'on a raté l'occasion d'avoir un traité constitutionnel. Je ne me suis même posé la question. À l'époque, j'étais pour mon doctorat à Paris. Et je me suis dit, mais quelle bêtise! Comment vouloir donner une constitution à l'Union européenne, qu'on a des pays qui n'ont pas la constitution. Dans leur droit interne, dans leur vie interne, l'Angleterre n'a pas de constitution. Comment vouloir donner à l'Union européenne une constitution quand l'Angleterre, le Royaume-Uni, n'a pas de constitution? Bon, je pense que c'était un peu le chemin autre qu'il fallait faire. Donc, mais on n'a pas une constitution européenne, on a deux traités fondamentaux, le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, on a modifié ces traités. Donc, Et on a des textes là-dedans qui sont intéressants. Et on a le commencement du procès de mobilisation européenne qui est le Conseil de l'Europe, donc qui a vu sa naissance juste après la Deuxième Guerre mondiale et après l'Union européenne. Donc on a des institutions européennes, non pas seulement des institutions qui appartiennent à l'Union européenne, mais aussi au Conseil de l'Europe. Donc moi, je me suis proposé de toucher quelques aspects en partant de ces documents, donc la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est intégrée dans les traités pour le fonctionnement de l'Union européenne et les traités de l'Union européenne. Donc des textes fondamentaux qui sont là justement pour nous donner des lignes, des valeurs que l'Union européenne considère fondamentales et l'Europe considère fondamentales. Quand on parle du projet européen, on parle des années 50 et de ce qui s'est passé à ce moment-là, on oublie trop souvent que juste après la Première Guerre mondiale, Aristide Briand, ministre d'Affaires étrangères de la France, de la République française, a eu l'ambition de faire quelque chose, de faire un mémorandum avec les pays d'Europe, justement pour préserver une paix plus longtemps possible. Et nous, les Roumains, nous sommes fiers parce que à cette époque, la Roumanie était dans les calculs de ce projet, même était un pays important. La frontière de la Roumanie était pensée comme frontière de pays qui entraient dans ce système. Aristide Briand a eu des négociations avec les diplomates roumains et Nicolas Titulescu, Georges Mironescu, Constantin Cesianu étaient, on peut dire, des acteurs importants dans ces projets. Et malheureusement, la crise économique allait emporter ce beau projet. On l'a relancé après la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, cette fois-ci, les pays du bloc de l'Europe de l'Est n'ont pas pu être intégrés dans les processus dès le début. Ainsi, on peut comprendre que les structures de mécanismes qui gouvernent les fondements de la construction européenne ont été élaborées à l'époque où une grande partie des pays intéressés aujourd'hui de vivre ensemble ne pouvaient pas apporter leur contribution à l'édification du système institutionnel commun. L'Europe occidentale gardait dans son esprit l'idée d'intégrer dans l'Union plus de pays possible, mais jamais on n'a pas pu penser que les choses vont se faire si vite. Moi, j'étais étudiant en 89 et on disait, il y avait une blague en Roumanie, comment on passe du socialisme au capitalisme? Et la réponse était par la Hongrie. Vous voyez? Donc la seule solution pour vaincre le communisme, c'était émigrer. Donc c'était tout. Donc quitter les communistes, c'était par l'émigration. Il n'y avait pas d'autre. C'était en 89. Donc c'était pas 10 ans avant. 89. La seule manière de passer au capitalisme, c'est par la Hongrie. Et ils sont passés même avec des brebis. Vous voyez, c'est des choses extrêmement intéressantes. Il y avait un berger qui est passé avec tout son troupeau en Hongrie. Mais ça, ce sont des anecdotes réelles, mais très intéressantes. Donc, dans ce contexte, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, le pays qui naissait les projets de l'Union européenne, qui était au fondement de ce projet, ont essayé de mettre en marche un système. On ne va pas les juger, mais ils n'ont pas pris en compte toutes les sensibilités de pays du bloc de l'Est, et on ne peut pas juger non plus leur attitude parce que les choses étaient si claires qu'on ne voyait pas comment ça pourrait se faire. Mais à cette époque, en 82, le cardinal Koenig, archevêque de Vienne, affirmait: lorsque l'Église parle de l'Europe, elle n'entend pas une partie de celle-ci, celle de la CEE, de la zone de libre-échange, ni l'Europe du Conseil de l'Europe, ni encore moins celle des blocs militaires. L'Église envisage toujours l'Europe dans sa totalité, celle qui a constitué une unité spirituelle grâce à la mission chrétienne du Portugal à l'Oural, de l'Islande à Malte. Pour nous, l'Europe ne peut recouper les frontières militaires ni les frontières politiques ou sociales. Pour les chrétiens, l'Europe est à la fois Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, donc une réalité à la fois religieuse et culturelle. Sachez que pour les pays de l'Est, des petits signaux comme ça étaient extrêmement intéressants. L'Église orthodoxe roumaine était dans une situation particulière. Je ne vais pas porter des jugements sur la manière dans laquelle elle a su gérer ce conflit avec le pouvoir, mais elle a suggéré par pas mal de gestes un avenir qui était vraiment intéressant. À l'époque où la censure, on a bien vu en Ukraine, détruisait l'Église, en Roumanie, il y avait 5 périodiques théologiques. Le monastère de Chefton est témoin ici. Ils ont la meilleure collection de périodiques de l'époque communiste, donc qui sortaient régulièrement. On avait 2 facultés de théologie avec des programmes doctoraux, avec des professeurs comme Père Staniloae. On peut dire qu'à l'époque communiste, on a eu le florilège de la théologie roumaine, avec des professeurs extrêmement intéressants. Comment c'est arrivé, on ne peut que deviner. Dieu a fait son travail de sa manière. Mais l'Église roumaine a su profiter de pas mal de choses à cette époque. Et une des pistes était s'intégrer dans le milieu œcuménique. Donc par le mouvement œcuménique, par la présence dans les mouvements œcuméniques, l'Église sortait un peu de son milieu. Et ce n'est pas étonnant que maintenant, 90% des évêques de notre Église ont étudié à l'étranger. Donc, mais à l'époque communiste, pas mal d'entre eux et une grande partie après. Donc, l'Église est sortie un peu de ces systèmes par des raccourcis. Je ne les connais pas toutes. Mais un de milieux était le milieu œcuménique. Mais en même temps, pour l'Église orthodoxe, le rêve, les grands rêves, d'un grand synode œcuménique. On faisait des blagues sur ça aussi, on disait que le grand synode œcuménique va avoir lieu le jeudi avant la parousie. Donc, mais nous, on se nourrissait de blagues à cette époque parce que c'était la manière, on n'avait pas la télé. On avait 2 heures de télé par jour, donc les blagues avec Ceausescu, même avec les dirigeants ecclésiastiques, étaient vraiment quelque chose de succulent, donc on les goûtait pas mal. Mais dans ces milieux panorthodoxes, écuméniques, mais aussi panorthodoxes, l'Église pouvait dire ce qu'elle ne pouvait pas dire à l'intérieur. Et vous savez que dans l'Église orthodoxe, les accords sont à unanimité. D'habitude, dans les commissions préparatoires, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu, nous, de l'Union européenne, mais l'Union européenne a pris chez nous. C'est la tradition synodale de l'Église. Donc, en 1986, dans la période la plus dure du régime communiste, chez nous, les délégués des églises orthodoxes, en unanimité, lors de la 3e conférence panorthodoxe préconciliaire de Chambézy, ont affirmé leur adhésion aux valeurs qui sont promues par les projets politiques européens. Donc, si on parlait de liberté à cette époque, on disait qu'on est libre de se taire. Mais sinon, il n'y a pas de liberté. On est libre de se taire. Mais même ça, c'était compliqué. Donc, ces textes disent, nous chrétiens orthodoxes, du fait même que nous avons eu accès au sens du salut, avons le devoir de lutter pour alléger la maladie, les malheurs, l'angoisse. Parce que nous avons eu accès à l'expérience de la paix, nous ne pouvons pas rester indifférents face à son absence dans la société actuelle. Parce que nous avons été les bénéficiaires de la justice de Dieu, nous luttons pour une justice plus complète dans le monde et pour la disparition de toute oppression. parce que nous faisons l'expérience chaque jour de la clémence divine, nous luttons contre tout fantasme et toute intolérance entre les hommes et les peuples. Parce que nous proclamons continuellement l'incarnation de Dieu et la divinisation de l'homme, nous défendons les droits de l'homme pour tous les hommes et tous les peuples. Parce que nous vivons le don divin de la liberté grâce à l'œuvre rédemptrice du Christ, nous pouvons annoncer de manière plus complète sa valeur universelle pour tout homme et tout peuple. Maintenant, après la lecture de la conférence qu'on a eue il y a quelques minutes, on comprend mieux les non-dits de ce texte et le message qui était transmis à toutes les églises orthodoxes par ce texte. Et je répète, ce texte a été adopté en unanimité. Je ne veux pas le citer en entier, vous pouvez le trouver. Mais donc, l'église orthodoxe, l'orthodoxie, n'est pas restée dans un sommeil, comme ça, de confort. Mais elle a dû peser ses actions, qu'est-ce qu'elle peut faire et à quel prix. Donc il y avait vraiment un débat de conscience dans tout cela. Et il se fait que dans ce contexte, l'Église orthodoxe, les églises orthodoxes locales et l'Église orthodoxe tout entière étaient prêtes d'une manière ou d'une autre de survivre, de sortir de ce temps difficile. Ce n'est pas par hasard que l'Église de Moscou, maintenant, est dans une situation extraordinaire après tant d'années de souffrance et que l'Église de Roumanie, pareil, donc, retrouve son chemin. Ce n'est pas par hasard tout cela, c'est parce que l'Église a travaillé de manière discrète pour maintenir une flamme, même discrète, mais pour la maintenir. Donc, nous on a eu à l'époque communiste ce désir de vivre ensemble, ce désir de réaffirmer le souvenir du Bucarest comme petit Paris, le souvenir de la culture humaine comme culture européenne, le lien entre les Roumains avec les philosophes, les écrivains qui vivaient à l'Occident, ces Roumains qui ont fait la France. Il y a un ouvrage intéressant. Donc, ça nous a beaucoup aidé à résister et à rêver. Moi, je me souviens, on écoutait le poste de radio Europa Libre, l'Europe Libre, qui était brouillé par les autorités, mais j'avais 18 ans, mais on l'écoutait avec une patience, avec quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu un collègue qui n'a pas pu finir son lycée, donner son bac à cause de ça, parce qu'il était surpris avant le bac en écoutant l'Europe Libre. Donc, c'était quelque chose qu'on ne peut pas comprendre de l'extérieur. Mais on avait ce désir de vivre ensemble et d'intégrer des valeurs européennes. Et après le chute du communisme, une des plus importantes valeurs qu'on a mis en valeur, c'était la culture du dialogue, apprise à l'époque où l'Église était dans les mouvements œcuméniques et dans les mouvements pas orthodoxes. Et les dialogues est la première étape simplement parce que les dialogues est le premier signe du dépassement de l'égoïsme et de l'autosuffisance. Et par les dialogues, nous prenons conscience que c'est lui qui est à côté de nous et lui aussi une personne. La disponibilité pour les dialogues nous donne le courage de témoigner, de faire profiter les autres de notre expérience de vie. Mais le dialogue appelle le témoignage et le témoignage appelle le partage. Donc, nous avons vu en Europe un lieu du dialogue, un lieu de témoignage, un lieu de partage. Et dans ce contexte, depuis le début des années 90, une conscience du dialogue nécessaire entre les partenaires présents et futurs du projet européen se montrait indispensable. Mais nous, les orthodoxes et ceux du pays de l'Est, on a été aussi déçus par la manière dans laquelle le dialogue a commencé à se mettre en marche. Souvent, ceux qui ont une bonne impression d'eux veulent imposer aux autres leurs propres conditions, tout en oubliant que le dialogue n'est pas seulement un échange de mots et d'idées, mais un échange de dons qui marque le passage de l'antagonisme vers le partenariat, de la désunion à la réconciliation. À cette époque, dans les années 90, il y avait un enthousiasme extraordinaire. Tous les sondages d'opinion au niveau européen présentaient la Roumanie comme étant au sommet d'espoir, de l'espoir pour l'intégration européenne. L'espoir du dialogue, l'espoir de retrouver l'Union européenne, l'enthousiasme des années 90 était énorme. Et au fur et à mesure, ça s'est tempéré un peu. C'est justement parce que vite, on a pris conscience qu'on va entrer dans l'Union européenne si l'intérêt politique se manifeste. Si les 22 millions de Roumains vont être intéressants pour le marché européen, on va entrer dans l'Union européenne, il ne faut pas se cacher. Et on est entré dans l'Union européenne. Malheureusement, la prédiction a été avérée, les Roumains étaient devenus le marché pour l'Union européenne, mais ils étaient laissés dans cette situation de deuxième main, citoyens de deuxième main. Donc on est en Union européenne depuis 2007. Et les Roumains, même maintenant, n'ont pas le droit de travail en Union européenne. Donc, et ça, c'est comme une frustration terrible. Les gens se sont frustrés. On est, depuis 2007, on a négocié avec l'Union européenne des traités, des conventions, des accords. Et parce que l'intérêt politique de tel et tel État dit et que la campagne électorale doit être prise en sérieux, on n'entre pas dans le Schengen, même si toutes les conditions matérielles et institutionnelles sont là. Donc tout est accompli. Bon, ça veut dire que ça a créé des frustrations au niveau de la population. Et on se posait la question, mais quelle valeur de l'Union européenne nous voulons? Et c'est difficile d'expliquer aux gens que les choses ne sont pas comme ils le voient, comme ils le vivent. Mais dans ce contexte, l'Église, comme formateur d'opinion, a dû se battre. Elle se bat justement pour garder dans le cœur, dans l'esprit des Roumains et des autres pays de l'Europe de l'Est qui intègrent l'Union européenne mais qui sont ou sont dans les conseils de l'Europe, cette conscience que malgré les faiblesses institutionnelles de l'Union européenne, ce chantier est grand et cette opportunité de vivre ensemble ne peuvent pas être négligées et qu'on doit les saisir. Et je ne veux pas reproduire ici de textes très connus de patriarches ou de dirigeants des églises orthodoxes. Dirigeants, c'est trop dit, parce que dans l'église orthodoxe, le patriarche et président du synode n'est pas le chef de l'église dans le sens qu'on connaît dans l'Occident. Je veux donner quelques textes un peu que j'ai trouvé, non pas dans des publications très importantes, mais dans des publications ou avec des occasions un peu comme ça, pas si couvertes par le média. Lors du voyage en Roumanie en 1999, le patriarche Bartholomée de Constantinople dit « Si l'Europe occidentale souhaite sortir de l'impasse spirituelle où elle se trouve aujourd'hui, elle doit retourner à ses sources et resserrer ses liens avec Dieu et sa création au lieu de succomber à l'orgueil par une vaine attitude de supériorité. » 99, c'est à l'époque où on commençait à se préparer pour l'entrée dans l'Union européenne. C'est le message du patriarche Bartholomée donné en Roumanie. En 2001, un texte qui ne se veut pas un texte pour l'Europe, mais qui se veut un texte pour le dialogue entre les chrétiens, la charte œcuménique des églises d'Europe, signée à Strasbourg en avril 2001, par le métropolite orthodoxe Jérémie, de France, de la part de la conférence des églises européennes, et par le cardinal Miroslav Vlk, de la part du conseil de conférence épiscopale d'Europe, précise. Sur la base de notre foi chrétienne, nous nous engageons pour une Europe humaine et sociale, dans laquelle s'impose le droit de l'homme, les valeurs fondamentales de la paix, de la justice, de la liberté, de la tolérance, de la participation, de la solidarité, et ainsi de suite. En 2007, on a eu à Sibiu une assemblée impressionnante, le troisième rassemblement œcuménique européen, à Sibiu, d'où mon frère Cyprien vient. Et à ce moment-là, le patriarche œcuménique Bartholomé a dit: les fondements d'une nouvelle Europe ne peuvent pas être seulement d'ordre financier et politique. C'était avant la crise, 2008, la crise. Pas seulement d'ordre financier et politique, mais eux doivent également avoir une dimension culturelle qui prend en considération les sensibilités nationales. À cause de cela, nous soutenons avec toute détermination et la conviction chrétienne, nous bénissons et nous contribuons à la création d'une Europe humaine et sociale, illuminée par la lumière du Christ. Deux années avant, celui qui représentait l'Église orthodoxe à Sibiu, qui avait été métropolite de Moldavie, un des plus illustres théologiens orthodoxes, le patriarche Daniel, disait à Strasbourg, en 2005, « Dans les processus de la construction européenne, les églises doivent éviter à la fois l'isolation et la dissolution. » Disons que le travail de construction de l'Europe unie devient pour l'orthodoxie une provocation nouvelle, une chance pour exprimer d'une nouvelle manière la fidélité face à l'évangile de l'amour divin pour l'humanité dans un nouveau contexte dans lequel la laïcité sécularisée et le pluralisme religieux coexistent. Et à l'occasion du grand rassemblement de Sibiu, le métropolite Daniel, qui était locum tenens de patriarche, il a souligné le fait que nous allons dans l'Union européenne, on venait d'entrer dans l'Union européenne au 1er janvier 2007, non pas sur une porte de secours, même si on le sentait que c'était une volonté politique, mais avec la dignité d'un peuple qui attendait tout cela depuis longtemps. Le patriarche Daniel a eu le courage de dire tout cela devant le président de la Commission européenne. Courage, l'audace de dire tout cela devant le président de la Commission européenne, des dignitaires, de président des institutions européennes à Bucarest. Récemment, il y a quelques mois, sa béatitude le patriarche Cyril de Moscou, lors de l'ouverture du Conseil européen des responsables religieux en juin 2011, a souligné le fait que la vision du monde, du croyant, est impensable sans la compréhension de la liberté et de la dignité humaine, qui depuis des siècles celle des communautés religieuses traditionnelles. Dans la tradition chrétienne, en particulier, a souligné le patriarche Cyril, la liberté est l'expression de l'image de Dieu dans l'homme. Donc, j'ai donné tout ce texte, non pas d'une grande circulation, mais des textes qui sortent de personnalités de l'Église orthodoxe, pour voir un peu quel est l'esprit et comment l'Église sent l'Union européenne et comment les valeurs de l'Église orthodoxe, les valeurs de l'orthodoxie se mettent ensemble avec ce qui est le projet européen. Maintenant, dans cette deuxième partie de mon intervention, je voudrais venir un peu au texte promulgué par l'Union européenne. Donc comment les valeurs de l'Église orthodoxe se retrouvent dans les textes promulgués par l'Union européenne. Je ne veux pas entrer dans tous les détails. Il y a énormément de textes qui touchent la vie religieuse, la liberté religieuse, la dignité, la place du citoyen croyant dans l'Union européenne. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, le deuxième article est toujours dans le deuxième article de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, parce que, en effet, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut être sincère, l'Union européenne n'avait pas envie d'adhérer à la Convention européenne pour ne pas être jugée à Strasbourg comme entité politique. On s'est donné une charte européenne pour les droits fondamentaux aussi pour laisser un peu de temps à ceux qui ne voulaient pas une Europe trop fédéralisée, trop politique, donc pour ne pas briser ce que l'Europe pouvait l'être. Donc, on va un peu ensemble les deux documents, donc je ne veux pas les dissocier, on va aller un peu ensemble. Donc, le deuxième article dit « Les droits de toute personne à la vie est protégé par la loi. » La charte, donc ça c'est la convention, la charte dit tout simplement « Toute personne a droit à la vie. » Ce texte nous pose de réflexion, nous invite à des réflexions. Moi, j'étais invité à un débat universitaire à Cluj, où j'enseigne. Il y avait les professeurs de la faculté des droits, les professeurs de la faculté de théologie, j'enseigne les droits canons, donc j'étais invité, les philosophes, les médecins, justement pour discuter sur le droit à la vie. Et j'étais vraiment surpris par une nuance introduite par un professeur très militant de l'autre côté de la barricade, et qui disait, désormais, il ne faut plus parler du droit à la vie, mais des droits de vivre. Une nuance qui est très intéressante. Pourquoi dire tout cela? Pour dire après, ont le droit à la vie, donc de vivre, seulement ceux qui sont vivables tout seuls. Donc, le fœtus n'étant pas vivable, donc jusqu'à un certain temps, il n'a pas le droit à la vie. Donc, parce que le droit à la vie, c'est le droit de vivre. C'est quelque chose de très intéressant. On peut manipuler le texte et arriver à des conclusions qui sont très dangereuses. Et en tant qu'orthodoxe, parce qu'il s'agit de voir comment l'orthodoxie rencontre ses valeurs, on peut se poser des questions. Ce droit à la vie est refusé à un enfant conçu et avorté. L'avortement est l'acte par lequel il est interrompu le cycle de vie d'un être humain. Je ne veux pas entrer dans les détails, il y a un débat tout entier. Père Jean Brec, il est spécialiste dans la bioéthique, et il montre comment, du point de vue médical, du point de vue génétique, du point de vue scientifique, donc l'homme, en tant qu'homme, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière dans laquelle l'enseignement de métropolis Zizoulas est quelquefois comprise, donc il fait des nuances qu'on n'a pas eu le temps de développer dans les discours d'hier, mais l'homme existe de sa conception. Et l'homme qui est dans le ventre de sa mère entre en lien avec ses parents. Et il n'est pas une masse de chair qui attend un certain temps pour être personne. Donc, interrompre le cycle de vie d'un être humain au nom du droit d'une femme d'être maître sur son corps, et tout en disant que la femme n'est pas maître de son bébé, une fois qu'elle naît, elle est responsable, même au niveau ecclésiastique, canonique, même au niveau juridique, si elle tue son bébé 5 minutes après naissance. Donc, entrer dans cette logique, c'est pour nous les orthodoxes, c'est très compliqué. Et trouver des raccourcis pour justifier des choses. Donc parce qu'on a donné des choses, on a développé d'idéologies, après on les justifie par des textes et par des choses législatives et des interprétations. Justement, pour ne pas s'endormir, je veux dire une anecdote. Un des généraux, des colonels de Roumanie cherchait des tireurs d'élite après la Première Guerre mondiale. Et il va dans des villages pour chercher des tireurs d'élite. Donc, il trouve dans un village le mur d'une école marqué par des cibles trouées au milieu. Il dit, mais comment ça c'est possible? Qui tire ici? Et le directeur de l'école dit, mais oui, monsieur Antel, qui était un vieux, qui tremblait tout, mais comment vous faites ça? Mais je dis, oui, c'est comme ça. Et après, avec un clou, j'entoure. Malheureusement, très souvent, on a d'idéologie, on a de préjugés, on a des choses décidées à l'avance. Et après, on trouve, et nous les canonistes, on est spécialistes. Donc, on entoure et on met en valeur les choses de la manière dans laquelle on veut les avoir, non pas de la manière dans laquelle elles sont. Donc, ces droits de vie, quelque chose de très intéressant. Et comment se présenter devant tout cela? Après, le temps passe vite et quand je suis bavard, je risque de dépasser, de me faire frapper par mon confrère sur le doigt. Donc, je veux pas m'arrêter surtout. Je pense que ce texte, je veux le publier à un moment donné, quelque part. Donc, je veux donner encore quelques points comme ça pour voir les valeurs promulguées. Le 9e article de la Convention qui proclame la liberté des pensées, des consciences et de religion. Les analystes, les juristes européens, même européens, mais les juristes orthodoxes aussi, disent que ce n'est pas suffisant de dire on a la liberté des religions. Nous, on a eu la liberté des religions à l'époque communiste. Si vous regardez les constitutions de l'époque communiste, impeccable. Avec de petites traits, touches communistes qu'on comprenait, mais impeccable. La liberté des religions était là. Donc. Mais il ne suffit pas de la proclamer. Il faut donner des moyens pour qu'elle soit vécue. Donc, dans la doctrine juridique contemporaine, les juristes, les spécialistes dans les relations des États disent que cette garantie de liberté des religions est une garantie active. Et que ce n'est pas un privilège que les États donnent aux églises d'entrer dans les hôpitaux, d'entrer dans les prisons, de faire leurs œuvres sociales. C'est une obligation qui découle de cet article. Si vous nous avez garanti la liberté des religions, il faut que vous garantissez aussi mon accès en tant que prêtre, en tant qu'église, à ceux qui me revendiquent là où ils ne peuvent pas aller librement, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les internats. Donc, cette garantie active. Quelquefois, nous-mêmes, on est d'accord de minimaliser notre autonomie. Et on laisse l'impression que les États nous donnent des grands privilèges par les aides de faire l'assistance sociale, par exemple, ou l'action dans les hôpitaux. Mais je pense que les choses sont autrement. Et l'Église orthodoxe doit dire cela. Et toutes les églises chrétiennes, les États ont l'obligation de faire cela. Et Madame Badouan-Godoumé, un éminent chercheur à Paris, a mis tout cela en évidence. Et des juristes, des théologiens orthodoxes, comme Père Grigoros Papathomas aussi, l'a fait. Donc, un autre point de ce même article, c'est la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut pas faire l'objet d'autres restrictions que celles prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé, de la morale publique ou la protection des droits et libertés de l'autrui. Donc l'État ne peut pas s'ingérer dans les affaires des cultes autrement que dans des conditions certaines. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Nous sommes témoins d'une situation actuelle, il y a quelques jours. Donc, un des principes de la liberté religieuse, c'est le respect du caractère propre d'un culte. Dans les droits de gestionner ses valeurs et sa manière de vivre de la manière dans laquelle il la juge correcte, à condition qu'il ne transgresse pas la loi. Et la morale publique, qu'est-ce que ça veut dire morale publique? Et l'éthique, qu'est-ce que ça veut dire l'éthique? Mais, donc, elle est libre. Mais, il y a quelques jours, la Cour de Strasbourg, dans un jugement, a dit que c'est normal que les prêtres de Roumanie se constituent dans un syndicat. Malgré l'interdiction expresse dans les statuts de l'Église orthodoxe roumaine, qui sont assumés par l'État roumain dans une décision du gouvernement. Donc, introduire dans le droit interne. En faisant des analogies, bon, qui juridiquement peuvent rester comme ça debout, mais derrière ce jugement, ce n'est pas simplement un jugement contre l'Église orthodoxe ou contre l'État roumain, mais c'est toute une philosophie qui va pour affaiblir l'autorité de l'Église. Parce que où on va arriver si les prêtres demandent leur jour de congé hebdomadaire les dimanches? Bon, mais comme le débat dans un syndicat. Mais je dis tout cela pour voir comment les valeurs de l'Union européenne, qui sont des valeurs européennes, peuvent être manipulées quelquefois et que l'Église ne peut pas rester sans rien dire. Elle doit assumer les valeurs européennes, mais en même temps, essayer de se restreindre. Bon, je suis bavard, je vais m'arrêter en quelques minutes. J'ai encore des choses à dire, mais une autre fois, peut-être pendant le débat. J'espère pouvoir faire lire ce texte après à ceux qui sont intéressés. Mais dans tout ce contexte, quelle est la vocation de l'Église? Et comment l'Église peut rencontrer cette problématique? J'ai beaucoup apprécié une citation donnée par Olivier Clément de Soloviev. Solzhenitsyn, c'est pas Soloviev. Solzhenitsyn disait: l'Église n'a pas la vocation de faire de ce monde un paradis, mais elle doit tout faire pour que ce monde ne devienne pas un enfer. Merci.
Un grand merci. Voilà. Si je peux demander au docteur Sigov de nous rejoindre ici à l'estrade, on va procéder directement aux questions et on va faire le même système qu'avant. On va prendre deux, trois questions ensemble.